1968 et Bill Clinton, poursuivi pour parjure en 1998 dans le cadre de sa liaison avec les stagiaires de la Maison Blanche, Monica Lewinsky. Claude, jamais donc un président n'a été destitué dans l'histoire américaine. Le républicain Richard Nixon, en 1974, a préféré démissionner pour éviter une destitution certaine, d'après certains, par le Congrès, en raison du scandale du Watergate. Quelles sont les chances de réussite d'une telle procédure ?
Difficile, hein, parce que, comme vous venez de le mentionner, si on se base sur le passé, Andrew Johnson, 1868, a été acquitté, finalement. Le vote au Sénat, 35-15. Donc, il manquait seulement une voix seulement. Donc, il a été acquitté. Lui avait été accusé d'abus de pouvoir. Il avait remplacé le ministre de la guerre pendant que le Congrès était en vacances parlementaires. Mmh. Et vous le savez, seul le Congrès est habilité à nommer un ministre. Donc, abus de pouvoir dans le cas de Johnson. Et deuxième cas, évidemment, c'est Bill Clinton, plus proche de nous, 1998. Alors, lui a été accusé parce qu'il avait menti. Il avait menti sous serment, en disant qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Mais là encore, évidemment, la situation était un peu l'inverse de celle d'aujourd'hui. Les républicains étaient majoritaires à la Chambre, le Sénat alors était démocrate. Aujourd'hui, c'est évidemment la situation inverse. Donc on voit mal comment les démocrates vont obtenir la majorité de 2/3. Je crois qu'il faut que 20 républicains à peu près changent de camp. Pour le moment, il y a seulement une poignée qui ont le courage de dire oui, vraiment, cette affaire ukrainienne est pour le moins embarrassante. Donc, je le répète, ça me semble assez difficile et je ne suis pas certain que Trump soit le premier président à être destitué.
Et d'après ce que vous avez vu à l'époque de Bill Clinton, une telle enquête et une telle procédure peuvent-elles être coûteuses pour les contribuables américains ?
Ah, évidemment, ce n'est pas bon marché. Hein. Mmh. Si on regarde le coût de la procédure d'institution contre Bill Clinton, ça a tout de même atteint 1 800 000 $. Non, 1 300 000, mais si vous faites l'ajustement avec la valeur du dollar actuel, c'est à peu près 1 800 000. Nous sommes maintenant 11 ans plus tard. Donc, la procédure d'institution pourrait coûter aux environs de 2 millions de dollars, peut-être un peu plus.
Alors, évidemment, on fait un décryptage ici. Avant d'aller plus loin dans la discussion, un rappel des faits des principaux acteurs de l'affaire ukrainienne. Le président Donald Trump et son homologue Volodymyr Zelensky. Leur entretien téléphonique du 25 juillet 2019 est au cœur de la plainte de lanceurs d'alerte, dont l'identité demeure secrète. Il ou elle est à l'origine de l'enquête des démocrates qui accusent Donald Trump d'avoir abusé de son pouvoir à des fins électorales personnelles en demandant à son homologue d'enquêter sur un adversaire politique, l'ancien vice-président Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour 2020. Donald Trump parle d'un appel parfait. Volodymyr Zelensky affirme ne pas avoir subi de pression de la part de son homologue. Le 24 septembre, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, annonce l'ouverture d'une enquête en vue d'une éventuelle procédure de destitution. Enquête supervisée par l'élu démocrate Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre. Le 25 septembre, la Maison-Blanche publie le compte-rendu de l'entretien téléphonique. Rudy Giuliani, avocat personnel de Donald Trump, accuse les Biden de corruption et allègue que Joe Biden a utilisé sa fonction pour protéger les intérêts financiers de son fils Hunter en Ukraine. Hunter Biden était lié à la compagnie gazière ukrainienne Burisma de 2014 à 2019. Nicolas Zolochevski, l'ex-dirigeant de l'entreprise, a fait l'objet d'une enquête pour corruption. Mais Hunter Biden n'a jamais été publiquement mis en cause dans cette enquête. Le 4 octobre, le parquet ukrainien réexamine le dossier. Kurt Volker, ancien émissaire américain en Ukraine, mentionné dans la plainte du lanceur d'alerte, il démissionne le 27 septembre. Il témoigne devant les commissions parlementaires le 3 octobre. Le 8 octobre, l'administration Trump demande à Gordon Sondland, ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, de ne pas témoigner devant les élus. Le même jour, la Maison-Blanche qualifie l'enquête menée par les démocrates d'anticonstitutionnelle. Et dans une lettre envoyée aux dirigeants démocrates, l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, estime que les investigations ne sont ni légitimes ni impartiales. Pour les démocrates, empêcher le Congrès d'avancer dans son enquête pourrait constituer une entrave à la justice. Il rappelle que cela avait été l'un des trois motifs de destitution retenus à l'encontre du président Richard Nixon en 1974, avant sa démission, on en parlait tout à l'heure. Claude, cet affrontement verbal, est-ce le début d'un clash constitutionnel ?
Cela semble difficilement évitable. Que dit la Constitution ? Il y a trois branches dans le gouvernement. Hein, la branche exécutive, la Maison-Blanche, la branche législative, le Congrès, la Chambre, le Sénat et la branche législative, la Cour suprême. Et ces trois branches ont un pouvoir égal. Donc quand Trump dit le Congrès n'a pas le droit de me destituer sans un vote, par exemple, oui. c'est l'excuse invoquée. Oui. Si on regarde la Constitution, la Chambre n'a pas besoin forcément de procéder à un vote. De plus, si elle procède à un vote, ce qui pourrait d'ailleurs survenir dans les prochaines semaines, ils ont déjà la majorité nécessaire pour poursuivre l'enquête. Donc pourquoi ne le font-ils pas? Pour des raisons politiques, parce que certains démocrates se trouvent dans des circonscriptions à majorité républicaine et donc ils ne veulent pas antagoniser, si je puis dire, se mettre à dos les républicains, certains électeurs démocrates plus conservateurs. C'est pour ça qu'ils préfèrent attendre un peu pour pouvoir procéder à un vote. Mais enfin, ils ont largement la majorité. Au début, ça n'existait pas. Mais maintenant, il y a de plus en plus. 220 démocrates ont décidé que oui, c'était la chose à faire.
Et justement, j'allais poser la question à Henri. La Maison-Blanche et pas mal de républicains veulent ce vote. Pourquoi, politiquement, ça va apporter pas mal de gains ?
Mais c'est-à-dire que ce vote va identifier les députés démocrates qui sont favorables à la mise en accusation du président Trump. Et si ces députés se trouvent dans des circonscriptions, comme disait Claude Poncela, à tendance conservatrice, en fait, certaines de ces circonscriptions avaient auparavant des parlementaires républicains au Congrès. Et il y a eu une vague bleue, une vague démocrate qui a emporté 20 à 30 députés républicains, mais il s'agit de circonscriptions qui ont voté pour Trump. Donc, si ces parlementaires sont identifiés, le président peut les cibler en disant, voilà, ce sont des traîtres qui ne reflètent pas les opinions de leur district, il faut les remplacer.
Un mot maintenant sur le lanceur d'alerte. Cet individu n'a pas assisté à l'appel, mais c'est basé sur les témoignages de personnes présentes. D'après le président Trump, l'avocat du lanceur d'alerte est un gros démocrate, c'est ce qu'il a dit. Il affirme également que le lanceur d'alerte lui-même a des liens avec l'un de ses opposants démocrates. Claude, que sait-on de ce lanceur d'alerte et pourquoi sa crédibilité est-elle mise en doute par les républicains ?
Oui, première chose, on ne sait pas grand-chose sur qui est le ou la lanceuse d'alerte. Et les démocrates, la commission d'enquête du renseignement, qui souhaite l'interroger, s'entoure de mille précautions pour s'assurer que son identité ne soit pas révélée, car évidemment, cela pourrait mettre éventuellement sa vie en danger. Donc, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les avocats du lanceur d'alerte ont déjà dit qu'il n'avait jamais soutenu un candidat à la présidence, qu'il était totalement neutre. C'est apparemment un membre du service de renseignement, c'est tout ce que l'on semble savoir à ce stade. Et il faut bien sûr essayer de le protéger. Il y a une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Mais alors, ce qu'on lui reproche, c'est ce que Trump dit. Ce sont des ragots, tout ça. Il n'était pas là, donc qu'est-ce qu'il peut prouver ? Donc c'est la grosse critique. Ce ne sont pas des informations de première main. Mais maintenant, il y a un second lanceur d'alerte qui se tâte, qui ne sait pas encore exactement est-ce qu'il va véritablement se faire connaître. Enfin, et dire, moi j'étais là, par exemple. On suppose que c'est quelqu'un qui a assisté assister directement à la conversation. Et si effectivement il y a une telle plainte de la part d'un second lanceur d'alerte, évidemment la crédibilité de l'administration sera sérieusement mise en doute.
Oui, le camp républicain veut connaître l'identité, n'est-ce pas, de ce lanceur d'alerte. Et l'avocat de la Maison Blanche qui dit que Donald Trump a été privé de ses droits fondamentaux dans le cadre de cette procédure, comme la possibilité d'interroger des témoins, de recevoir la retranscription de témoignages ou d'avoir accès à des preuves. C'est ce qui a été écrit dans la lettre à Henry.
Eh bien, beaucoup d'observateurs disent que l'administration Trump essaie d'appliquer dans la procédure de mise en accusation d'impeachment à la Chambre les règles qui sont utilisées dans la justice normale. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous défendre si vous êtes accusé, mais ce que l'administration ne dit pas et ne reconnaît pas, c'est que ce qui se passe en ce moment à la Chambre des représentants ressemble beaucoup plus aux activités d'une chambre de mise en accusation où il y a uniquement l'accusation qui rassemble des preuves, interroge des témoins et il n'y a pas de participation de la défense. La défense reçoit le dossier quand on est prêt à passer au procès. Donc les démocrates disent qu'il n'y a absolument aucune raison que les républicains sachent en détail ce qu'ils sont en train de faire. Tout cela, toutes les informations leur seront communiquées quand on passera à la deuxième étape, c'est-à-dire le procès lui-même au Sénat.
Ceci dit, sous Clinton, Clinton avait tout de même obtenu d'interroger les personnes qu'il accusait. Et je pense que Donald Trump pense à ça pour utiliser cet argument.
On dirait qu'il y a un précédent.
Voilà, vous n'allez nulle part ailleurs à la deuxième partie du Washington Forum dans quelques petits instants. Merci d'être toujours des nôtres. Gros plan ce jeudi sur l'Ukraine Gate, l'affaire ukrainienne qui polarise l'attention ici aux États-Unis, mais c'est une actualité qui est également abondamment commentée ailleurs dans le monde. Et justement, voyons ce que vous en pensez sur le continent africain. Je vous propose 4 commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore N'Djamena, Tchad, l'affaire ukrainienne pourra coûter durement à Donald Trump si ses accusations s'avèrent. Le président américain a vraiment du pain sur la planche. Conan, Félix Conan d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Je crois que sans aucun doute, Trump est l'un des présidents américains ou le président qui est le plus combattu à la Maison-Blanche. Cette affaire ukrainienne est une affaire de trop. Hassan Omar Boulalé de Djibouti. Trump n'est point conscient des lois américaines. Il veut seulement satisfaire ses partisans et son ego. Il agit comme un président africain, mais aux États-Unis, personne n'est au-dessus des lois, peu importe le statut de l'individu. Et Lambert Thille de Mbuji-Mayi, RD Congo, après l'enquête de Mueller qui n'a rien changé, les démocrates sont conscients qu'ils ne pourront pas battre Trump en 2020. Et si ce dernier sort victorieux de cette affaire ukrainienne, alors à lui un deuxième mandat, car on sait bien que le Sénat est à majorité républicaine. Les opinions sont plutôt partagées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous retrouvons nos invités, deux journalistes, deux observateurs de la politique américaine, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et Henri Francisque qui travaille pour la VOA depuis maintenant une quarantaine d'années. C'est pas mal d'années, hein, en tout, parce que vous étiez là à plein temps et puis maintenant à mi-temps, quelque part.
Bien sûr. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les auditeurs qui vous ont envoyé leurs commentaires sont de fins analystes.
Vous voyez,
impressionnant.
On suit très bien l'actualité américaine, n'est-ce pas ?
Ça doit être de fidèles auditeurs de la Voix de l'Amérique, n'est-ce pas ?
Et je dois ajouter ici qu'à chaque fois qu'on fait une émission sur la politique américaine, on reçoit des tonnes de commentaires. Ils en veulent davantage. Bon, voilà. Henri, là, tout à l'heure, il y a Lambert qui me tend la perche. L'éventuelle procédure de destitution contre Donald Trump va-t-elle être au cœur de la campagne présidentielle ?
Ça dépendra si la mise en accusation a lieu avant la fin de l'année et le procès lui-même au début de l'année prochaine, avant les primaires dans la campagne présidentielle. Et c'est ce que les deux partis essaient apparemment d'éviter. Parce que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a laissé entendre qu'elle voudrait que ça se passe rapidement, même au pas de course, et qu'avant Thanksgiving, il y ait déjà un dossier d'accusation bien ficelé qui pourrait être mis au vote à la Chambre des représentants. Parce qu'il faudra un vote où on adopte une résolution de mise en accusation d'impeachment, et si elle est approuvée, à ce moment-là, le dossier est transféré au Sénat pour qu'il y ait le procès. Et les deux partis ne voudraient pas qu'il y ait cet albatros pendant la campagne électorale, à savoir une procédure de destitution du président qui va attirer l'attention et occulter tous les arguments des candidats concernant leur projet pour le pays.
Claude, je vous propose d'écouter cette question de la part de notre consoeur Julie Seyfou, rédactrice en chef à B1 TV, notre chaîne partenaire à Kinshasa, en RD Congo.
L'affaire ukrainienne remet sur le tapis la question des fuites dans la nature, l'ampleur et même la rapidité avec laquelle elles se produisent sont sans précédent dans l'histoire moderne des présidents américains. Est-ce que ces fuites de matériel classifié peuvent constituer une menace sur la sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique ou encore peuvent avoir un impact sur les communications futures du président américain avec les dirigeants étrangers ?
Merci bien, Julie. Question pertinente, parce que évidemment ça fait débat également ici aux États-Unis. Que pouvez-vous répondre à Julie et Claude ?
Oui, bah écoutez, Julie, vous avez mentionné l'argument avancé par Donald Trump. Oui. Si je ne peux pas avoir de conversation avec des chefs d'État étrangers qui restent secrètes, n'est-ce pas, qui sont rendus lâchés sur la place publique, comment puis-je faire mon travail, n'est-ce pas ? Ceci étant dit, si Donald Trump avait eu une conversation parfaite, comme il l'a dit, pour le citer, il n'y aurait pas eu un lanceur d'alerte pour dire « Ah mais là, non, il ne faut pas exagérer. C'est un cas flagrant de demander une faveur à un pays étranger pour m'aider à être réélu. » En fait, c'est une sorte de répétition de ce qui s'est passé en 2016, attaquer un rival en demandant... aux États-Unis, c'est normal, ça fait partie de la campagne, n'est-ce pas ? Mais demander à une puissance étrangère de vous aider à nuire à la réputation de l'un de vos principaux rivaux, alors là, franchement, c'est pas légal.
Mais en même temps, c'est pas aussi direct dans la transcription. Cela a été publié. Ouais. Donc maintenant, il y a la transcription et puis vous avez ce que ce lanceur d'alerte allègue.
Alors, oui, mais ça semble être tout de même recoupé par un nombre croissant de preuves.
Donc vous voulez dire qu'il y a encore des choses à découvrir
au fil des jours, on s'aperçoit que finalement cette conversation n'était pas aussi innocente que le prétend la Maison-Blanche.
Voilà. C'est certain que bon, la critique numéro un contre le président, c'est que il n'y a pas de quid pro quo, c'est-à-dire il ne demande pas quelque chose ouvertement, mais c'est implicite et c'est pour ça que beaucoup d'observateurs disent que la conversation ressemble à celle d'un don de la mafia qui vous dit écoutez, je vous fais ma meilleure offre, une offre que vous ne pouvez pas refuser.
Oui, bien sûr.
Donc, les gens ont même cité le film Le Parrain, où le parrain s'exprimait toujours de façon très dure. Il n'y avait jamais de menace.
Le président de cette commission, Adam Schiff, quand il a fait cette déclaration à la Chambre des représentants en ironisant, donc en fait, il a interprété les propos. Vous ne pensez pas que c'était un peu exagéré de sa part ?
peut-être un peu oui, exagéré, effectivement. Ouais. Mais enfin, l'essence de son message était tout de même le même.
Hein. Non, mais c'est une interprétation. Alors, Henri, chez les démocrates, Joe Biden a perdu terrain dans la course à l'investiture. Elizabeth Warren l'a déjà rattrapé, hein, d'après les derniers sondages. L'ancien vice-président de Barack Obama est-il la première victime collatérale du grand déballage ukrainien, d'après vous?
C'est-à-dire que le candidat démocrate Joe Biden est en perte de vitesse. Il a dominé, il était en tête des sondages pendant pratiquement de toute la campagne. Et puis maintenant, il est à égalité avec la sénatrice Elizabeth Warren. Et c'est évident que ça va lui faire du tort d'après les observateurs, parce que son nom est répété dans cette affaire, et surtout son fils Hunter Biden, qui est accusé par l'administration Trump de corruption.
Oui. Parce qu'il n'est pas prouvé. Hein.
Ce qui n'est pas prouvé, mais c'est une accusation.
Donc, disons que l'Ukraine est en train de réexaminer le dossier, donc on ne sait jamais ce qui peut être découvert. Alors qu'il y a cette affaire ukrainienne, le président Trump a été critiqué par ses propres alliés républicains au sujet du retrait des troupes américaines d'une partie de la Syrie pour laisser le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes. Claude, quelle lecture faites-vous de cette décision de Donald Trump au moment où il a un besoin crucial, n'est-ce pas, de ses alliés politiques pour contrer cette éventuelle procédure de destitution?
De l'avis de la majorité des analystes, c'est une faute morale et c'est une faute stratégique. Morale, ça n'est pas à l'honneur des États-Unis d'abandonner un allié qui, pendant 4 ans, nous a aidés à combattre avec la coalition le califat. Première chose. La prochaine fois, la crédibilité des États-Unis est en jeu stratégiquement. La prochaine fois qu'on aura besoin d'alliés pour combattre un État islamique qui pourrait très bien se reconstruire, parce que vous avez 12 000 islamistes qui vont être libérés dans la nature pratiquement. Je pense que ça va être une tâche sur la présidence de Donald Trump.
Henri, si la campagne à venir se focalise sur cette question de la destitution, cela va-t-il se faire au mépris de dossiers majeurs pour les Américains? Il y a l'accroissement des inégalités, meilleur accès à la santé, à l'éducation. Comment cela pourrait-il se traduire dans les urnes en novembre 2020, d'après vous?
C'est-à-dire que la couverture médiatique va se concentrer sur, non pas les élections, mais quelque chose de beaucoup plus excitant, si je peux utiliser ce dire, c'est-à-dire la destitution d'un président. Vous voyez l'image, le président qui quitte la Maison Blanche, si jamais il est condamné, il doit partir. Ça va être comme au temps de Richard Nixon. Donc, je pense que les deux parties sont d'accord, d'après la plupart des observateurs, sur la nécessité d'éviter que ce soit.
Henri parlait tout à l'heure de ces démocrates élus dans ces endroits où. Remporté par Trump. Donc, mais à l'époque, on a vu que les dossiers qui les intéressent, c'est l'éducation, la santé, sujets. Donc, c'était pas l'enquête russe, n'est-ce pas,
Jacques? Ouais. Qui s'intéresse à la campagne électorale, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu ce pauvre Bernie Sanders qui a eu une attaque cardiaque, personne n'aurait pu. Plus personne ne parle de la campagne en ce moment. Toute l'attention des médias est concentrée. Sur
il y a tellement à dire, le temps passe trop vite, messieurs, on va y revenir certainement. Hein.
Oui.
Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités, Claude Porcella et Henri Francisque. Un petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires, dont nos amis de B1 en RD Congo et d'Africa, au Mali. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care, prenez soin de vous.
Afrique.